Romain chapitre 13, je vais lire en fait pour commencer sept premiers versets de ce chapitre 13. Il y a des fois où on a l'impression que la présidence du culte convient parfaitement à la suite. Et aujourd'hui, on doit dire que c'est plutôt complémentaire. Parce qu'on a vu toute la gloire du Seigneur, toute sa grandeur. Et ce texte des Romains nous ramène au ras des pâquerettes sur le rôle de l'État, le chrétien en tant que citoyen dans la vie de tous les jours, etc. Donc, en attendant la gloire future, nous allons vivre sur cette terre. Nous allons vivre en tant que citoyen de la République française. Alors, que dit ce texte par rapport à cela? Je le lis. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà, on est au ras des pâquerettes. Et je disais tout à l'heure à Olivier, parce qu'on cherchait quel chant mettre à la fin de ce culte, et j'ai dit, que je sache, ni dans J'aime l'Éternel, ni dans À toi la gloire, il n'existe de chant qui remercie le Seigneur pour le privilège de payer les impôts, selon ce verset 6. Je n'ai jamais trouvé un chant qui parle de cela. Et pourtant, c'est un texte biblique. Alors, on va essayer de décortiquer tout cela pour essayer de comprendre en fait ce que cela veut dire. Et comme toujours, j'essaie de mettre ça dans son contexte. Donc, voilà. N'oublions pas, Romains chapitre 1 à 8, qu'on a vu. La justification par la foi, ça veut dire que Dieu nous déclare juste devant lui si nous croyons en Jésus, notre sacrifice, celui qui a porté notre condamnation à notre place. Et c'est pour cela que nous avons, je l'ai répété encore au chapitre 8, cette nouvelle identité d'enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, c'est notre identité. Ensuite, on est passé au chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, le donc est important. Puisque nous sommes enfants de Dieu, comment allons-nous vivre maintenant? Et à partir du chapitre 12, Paul explique toutes sortes de cas de figure, toutes sortes de façons de vivre, toutes sortes de comportements qui conviennent à adopter en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons vu en particulier ce texte depuis trois semaines, Romains 12, 9 à 21, où Paul insiste beaucoup sur le fait que nous devons aimer l'autre, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Nous avons vu en plus que nous sommes appelés à bénir, c'est le verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne modifiez pas, donc d'aimer même les personnes qui nous font du mal, parce que il est dit que nous devons avoir le mal en horreur. Nous devons nous attacher au bien. Nous devons vivre en paix avec les autres. Nous devons surmonter le mal par le bien. Donc, toutes ces choses. C'est important de le souligner. Cela, c'est le contexte dans lequel nous allons maintenant regarder le chapitre 13 avec le rôle de l'État. Il y a donc, on va dire, deux structures dans lesquelles, en tant que chrétiens, nous vivons. Je vais relire les versets 1 et 2 du chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, le tel verset appelle beaucoup de discussions pour comprendre jusqu'où et comment, etc., etc. Mais je crois que pour moi, le point de départ, c'est de dire, en tant que chrétien, la première structure dans laquelle on se trouve, si on peut appeler ça structure, la première, oui, appelons ça structure, c'est l'Église. L'Église, c'est quoi? Ce sont les chrétiens. C'est pour ça que j'ai hésité à utiliser le mot structure dans un premier temps. L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. On en fait partie par la foi. Nous l'avons vu, Romains 1 à 8, la justification par la foi. Et à partir du moment où on croit en Jésus, on fait partie de l'Église. Parfois, les gens peuvent prendre distance par rapport à l'Église, parfois, etc., etc. Peu importe. Si on est chrétien, on fait partie de l'Église universelle. On n'a pas le choix, en fait. On fait partie du peuple de Dieu. Et Dieu voudrait, pour le mieux, qu'on fasse partie d'une église locale, parce que c'est là où on peut s'encourager, s'entraider mutuellement, etc. Donc, on en a besoin. Mais on fait partie de ce peuple de Dieu qui est l'Église. Mais c'est un choix d'appartenir à ce peuple. On ne peut pas imposer cela à qui que ce soit. Parfois, au cours de l'histoire, des personnes ont essayé d'imposer, mais ça ne marche pas. Parce que c'est un choix. On ne peut pas demander, on ne peut pas imposer le fait de confesser son péché, de croire en Jésus. Par contre, et c'est là la différence avec l'État concerne tout le monde. Qu'on le veuille ou non, l'État concerne l'ensemble des citoyens. Là, on n'a pas le choix. Ce n'est pas un choix. J'habite tel ou tel pays, donc je suis sous l'autorité des responsables de ce pays, quel qu'il soit. Et même si je vais à l'étranger, dans ce sens, je me place en partie sous la responsabilité des autorités du pays où je me trouve. Même en voyage, même en vacances, parce qu'il y a ces autorités. Donc, le but de l'État, c'est de s'occuper de l'ensemble de la population. Et c'est dans ce sens-là que les chrétiens respectent cette autorité, parce que dans un pays, il faut un minimum d'ordre et d'organisation pour le bien de tous les citoyens. Si chacun choisissait librement comment il voulait se comporter, ce serait difficile. Un exemple tout bête, si chaque automobiliste décidait « moi je roule à droite et l'autre roule à gauche », ce ne serait pas facile de rouler. Donc il y a des lois qui sont là, qui s'imposent à tous pour le bien commun. Et donc on a parlé des impôts tout à l'heure, mais cela est nécessaire. Le bien public, c'est que les rues soient éclairées, par exemple, le soir, pour qu'on puisse nous retrouver. Il faut quand même payer l'installation de ces réverbères, il faut payer l'électricité, etc. Donc tout cela, c'est pour le bien de tous les citoyens. Donc le chrétien est à la fois citoyen de l'État, mais aussi citoyen du royaume des cieux. Et les mêmes, on va dire, on n'a pas exactement les mêmes valeurs dans ces deux structures. On a choisi donc de faire partie du royaume de Dieu. Et donc, on choisit du coup de dire, je vais aimer mon prochain comme moi-même. Je ne choisis pas de faire partie de l'État. Il n'y a rien qui me dit que je dois aimer mon prochain. Par contre, je dois me soumettre aux lois du pays pour le bien de tous. Donc, le chrétien, je reviens sur un autre verset qu'on a vu. Tant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Donc, on veut être de ceux qui cherchent la paix, selon les béatitudes. Le citoyen n'est pas obligé de le faire, mais s'il exagère, il y a des lois qui interviennent pour dire pas de tapage nocturne, enfin, etc. Donc, vous voyez la différence. Pour le chrétien, il le fait, ça vient de l'intérieur, parce qu'il veut plaire à son Seigneur. Le citoyen, en partie, ça vient de l'extérieur, qui est imposé pour le bien de tous. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire que ces autorités sont là par la volonté de Dieu, parce qu'il vaut mieux cela que l'anarchie. Si chacun fait ce qu'il veut, ce serait invivable. Maintenant, on peut se poser les questions, est-ce qu'on a le droit de changer, de résister à ces autorités? Je vais revenir à cela tout à l'heure, mais on peut de toute façon dire que, bien sûr, en démocratie, on peut dire à telle ou telle autorité, on ne vaut plus pour vous, on change de gouvernement. Donc bien sûr qu'on a le droit de faire cela. Il y a un deuxième bémol, et je vais y arriver. Donc, versets 3 et 4, je relis. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Et si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, non seulement le gouvernement a le droit de décider et de voter des lois, mais il peut aussi utiliser la force nécessaire pour les faire appliquer. Autrement, ça n'a pas de sens. Donc, le magistrat porte le glaive, l'épée, comme il dit ici. Et la preuve, dans un sens, que ça vient de Dieu, c'est que par deux fois, l'apôtre appelle le magistrat serviteur de Dieu. Et souvent, dans nos milieux évangéliques, j'ai souvent entendu l'expression « c'est un serviteur de Dieu » pour dire « c'est un pasteur ». Et pourtant, dans la parole de Dieu, le serviteur de Dieu, c'est le magistrat. Juste pour être clair, magistrat ne veut pas dire forcément seulement qu'il est tribunal. C'est dans le sens aussi de gouvernement, de fonctionnaire, etc. Donc c'est la personne qui est le dirigeant du pays et à ceux qui exécutent les décisions de la direction. Donc tout ce qui est fonctionnaire aussi. Donc, attention aux blagues sur les fonctionnaires. Parce que là, eux aussi, ils sont des serviteurs de Dieu, selon ce texte. Donc, si on respecte la loi, on n'a rien à craindre. À quel moment le conducteur craint-il le radar? Quand il respecte la vitesse? Ou il dit, mince, j'ai pas vu ce panneau-là à l'entrée du village. Donc, il sait très bien que si on fait le mal, quel que soit le mal, on peut craindre. Mais si on essaie de faire le bien, à la limite, on n'a rien à craindre. Quand même un petit bémol à ce moment-là. Parce que si on en reste là, on n'aura pas dit tout ce qui est dans les Écritures. Donc on va aller un petit peu plus loin. Il y a des exceptions. Il y a quelques exceptions. Et l'exception fondamentale, on le trouve dans Actes 4, 18 à 20. Acte 4, 18 à 20, c'est les autorités qui disent à Pierre et à Jean de ne plus parler de Jésus, concernant Jésus et qui que ce soit. Donc nous lisons, les ayant appelés, donc les autorités, Ils leur défendirent, donc à Pierre et à Jean, absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, ça veut dire, à partir du moment où les autorités ont dit, vous n'avez pas le droit de parler de Jésus, de prêcher de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, là, ils disent, vous n'avez pas le droit de nous l'interdire. Entre parenthèses, cela veut dire peut-être que l'on va subir les conséquences de cela. Ça, c'est autre chose. Et j'ai souvent cité Martin Luther King quand il s'était opposé aux autorités au nom de l'égalité, parce qu'ils opposaient, par exemple, ils mettaient certaines personnes, les blancs dans une certaine partie des bus et les noirs dans une autre partie. Et Martin Luther King est allé s'asseoir dans la partie réservée aux blancs. Et quand il était arrêté, il a dit, je ne pouvais pas faire autrement au nom de mes convictions chrétiennes, mais vous, le policier, vous n'auriez pas bien agi si vous ne m'aviez pas arrêté. C'était son devoir de le faire et de faire respecter la loi. Seulement, le but après, c'est d'agir pour que la loi change. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et donc, dans ce sens-là, c'est vrai que plus tard, Pierre a été mis en prison parce qu'il a continué à parler au nom de Jésus. D'ailleurs, je l'ai marqué parce qu'on trouve au chapitre 5 exactement la même idée. De nouveau, les apôtres sont arrêtés. Chapitre 5, verset 27 des Actes. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous pouvez faire retomber sur vous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc la seule exception de ces versets 3 et 4, comme quoi il faut obéir aux autorités, c'est si on nous demande de faire quelque chose qui est contraire à nos convictions de chrétiens. Si on nous oblige de faire quelque chose qui est contraire, ou si on nous interdit de faire quelque chose que l'on veut faire. Et on peut donner deux autres exemples. J'ai cité Exode 1, 17, c'est quand le pharaon avait demandé aux sages femmes des Hébreux de tuer tous les garçons qui naissaient, elles ont refusé de le faire. Parce qu'on ne tue pas un enfant à sa naissance, même si c'est le pharaon qui le demande. Et la même chose dans Daniel, il y a deux fois Daniel 3, je crois aussi Daniel 6, où on avait on avait obligé Daniel, par exemple, et dans un autre cas ses compagnons, de se prosterner devant une idole, ou dans un autre sens, dans l'autre chapitre, de ne pas prier à l'autre Dieu que le roi, qui se disait Dieu, pendant je ne sais plus combien de jours. Daniel a ouvert toutes grandes ses fenêtres. Il a prié matin, midi et soir. Il ne pouvait pas obéir à cela. Mais il a suivi les conséquences. C'était la fausse union. Donc il y a quand même des conséquences. Hein. Donc on nous avait dit, vous, Église de Paris-Villiers, à partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de prononcer le nom de Jésus devant les autres. Sinon, on vous jette dans une fosse avec des lions. Ben oui, on essaie quand même, je crois qu'on obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cela dit, ça, je dis bien une exception. Parce que il faut se rappeler qu'au moment où Paul a écrit ces lignes, c'était le début de certaines persécutions. Autrement, il n'aurait pas dit bénissez ceux qui nous persécutent. Et quelques années après, une poignée d'années après, si les chronologies sont exactes, c'était déjà Néron qui était empereur à Rome. Donc discuter. Donc, c'était dans ce cadre-là que Paul dit qu'il faut quand même se soumettre aux autorités. Parce que la révolution que l'Évangile apporte, ce n'est pas le changement d'un gouvernement pour un autre, de certaines autorités pour une autre. Parce que finalement, ça peut améliorer peut-être la situation pour certains, mais ça ne résout pas tous les problèmes de la société. L'Évangile commence avec le cœur. Il change d'abord le cœur et non pas les structures. Donc la vraie révolution, c'est tout ce qu'on a vu dans le chapitre 12, 9 à 21, sur notre façon de vivre. Oui. Vous n'entendiez pas, ça va?
On entend
mieux
maintenant.
Ok,
d'accord. Mais on t'entend.
À quel moment ça? D'accord. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc, bien sûr, faire le bien dans un premier temps, c'est pour éviter d'être puni. Pourquoi pas? Je roule à 90 parce que je risque moins d'avoir des points mon permis. Mais la vraie raison, c'est qu'on estime qu'en roulant raisonnablement, on crée moins de danger pour les autres, donc c'est une forme d'amour pour les autres. Donc on le fait aussi par conviction, ce verset le dit bien. Pas uniquement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et puis on arrive au verset 6 et 7, encore le rôle de l'État, où nous sommes appelés à être le bon citoyen. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. C'est tout à fait le hasard qui a fait que j'ai rempli ma feuille d'impôt hier. je vais même pas penser avant de prendre la parole. Mais c'est hier après-midi que j'ai fait ça. Donc voilà, ça tombait bien. J'ai loué le Seigneur, j'ai reconnaissant hier ce privilège de remplir la feuille d'impôt. Reconnaissant de l'avoir fait et que c'est maintenant. Mais c'est vrai que on est appelé à être de bons citoyens et cette fois-ci, on dit que les magistrats sont des ministres de Dieu. Tout à l'heure, c'était des serviteurs, mais des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc 35 heures passées dans leur bureau chaque semaine, c'est au service de Dieu. Peut-être qu'ils ne savent pas, mais ce qui est marqué là, ils sont entièrement appliqués à cela. Donc, rendez à tous ce qui leur est dû. Les impôts, le tribut, la crainte, l'honneur. J'ai vu dans le Summer qu'il est dit, rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui y reviennent. Parce que nous sommes aussi citoyens de notre pays. On veut être de bons citoyens. Alors, je pense qu'il est un peu difficile de parler de ce texte sans essayer de prendre un petit peu de hauteur et de tirer quelques conclusions. Et, c'est un bon sujet de discussion pour notre rapporteur. S'il y a des points sur lesquels on peut ne pas être forcément d'accord. Voilà, donc les quatre conclusions. La première. Il y a une différence entre le comportement individuel et du disciple et les prérogatives de l'État. Je m'explique. Le verset 14 dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas », ça c'est mon comportement individuel. Par contre, si il y a quelqu'un qui persécute, si on veut, quelqu'un qui vient lancer des briques à travers les carreaux de notre église, par exemple, Il est normal que l'État s'en occupe et cherche le coupable, en quelque sorte, pour essayer de réprimer le mal. Ce n'est pas le devoir du chrétien de réprimer le mal ou de se venger, mais c'est le rôle de l'État. Et donc le chrétien individuel peut confier cette tâche à l'État. On peut déposer plainte. Ce n'est pas à nous, parce que nous, on veut bénir la personne, on veut lui faire du bien, on veut l'aimer. Mais c'est normal aussi que l'État s'occupe de réduire au maximum les conséquences du péché, on va dire, donc de limiter le mal. Donc il y a deux comportements différents, le comportement individuel du chrétien d'une part et le rôle de l'État d'autre part. On pourrait même à la limite l'étendre plus loin, même pour une politique étrangère, à la limite. Parce que si d'une part les chrétiens, en allant à l'étranger, veulent apporter l'évangile, il est possible que l'État estime qu'il faut employer une certaine force pour la protection des citoyens d'un pays. Mais dans un cas, c'est l'État, dans l'autre cas, ce sont les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il faut lire l'Ancien Testament avec un petit peu de discernement. Parce que dans l'Ancien Testament, l'État, si on veut, était un État théocratique dans un sens, et l'État devait aussi défendre le peuple. C'est pour ça qu'il y avait des guerres dans l'Ancien Testament. Mais il n'est jamais question que les chrétiens se réunissent pour faire la guerre. C'est pas la même chose. L'État a le droit, dans certains cas, pour le bien de tous, dans un monde déchu et perdu, tordu, mais pas les chrétiens individuellement. Donc voilà, une différence entre les comportements du disciple et les prérogatives de l'État. Deuxième conclusion, la nécessité de l'État. Parce que le chrétien ne devrait pas avoir de mal avec cela. Parce que à partir du moment où le chrétien pense que nous sommes tous pourris, c'était le débat que j'ai eu à Clermont-Ferrand avec chef de file de la libre pensée, on est tous pourris. Je ne veux pas dire que personne ne fait jamais le bien, hein. Je ne dis pas ça. Hein, que même la doctrine de la dépravation totale ne dit pas ça. Mais dit qu'on ne peut pas dire, si on laisse les gens faire comme ils veulent, ils vont penser à la collectivité, ils ne vont pas être égoïstes. Non, on sait le péché est là, et donc il faut un minimum de force à un certain moment pour obliger les personnes à faire le bien. Même si ça veut dire que quand on prend le train, il faut avoir un billet, il faut des contrôleurs, etc. On ne compte pas sur la bonne volonté des gens, il faut un minimum de force, persuasion, pour que les choses se passent bien. Et je veux dire que c'est qu'on appelle parfois en théologie la grâce commune. Cela veut dire que malgré le péché, les choses ne se passent pas aussi mal qu'on aurait pu penser. Parce que l'État est là pour réduire en quelque sorte les possibilités du mal. Troisième conclusion, malgré tout, Dieu appelle les dirigeants à rendre compte de leurs actions. Ce n'est pas dans ce texte, mais c'est dans l'Ancien Testament. Combien de fois un prophète va annoncer que les Assyriens ou les Babyloniens vont venir exercer les jugements de Dieu? Et tout de suite le prophète dit, ah oui, mais eux aussi, ils ont quand même des comptes à rendre à Dieu de la façon de leurs actions. Donc on ne se fait pas d'illusion. Le chrétien n'est pas dans l'utopie comme il peut arriver. Un peu moins maintenant, j'ai l'impression qu'avant, de dire il suffit de changer le gouvernement et tous les problèmes seront résolus. Je crois que les gens maintenant sont un peu moins utopiques, peut-être, mais il peut arriver encore que l'on pense comme cela. Les dirigeants ont à rendre compte de leurs actions. Et on n'est pas obligé de les accepter telles quelles. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais cette semaine, en lisant un article un peu sur cela, je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais jamais vu. Quand Paul a fait appel à César, en fait, il a remis en question les décisions des cours, des tribunaux inférieurs. En fait, je n'avais jamais pensé à ça. Donc ça veut dire qu'il avait la possibilité de faire, donc il a fait. Ça veut dire que, dans ce sens, il n'acceptait pas le jugement des premiers. Il a fait appel directement à César. Ce qui veut dire que, dans ce sens, ils n'ont pas bien agi, ils auront à rendre compte, soit à César ou même à Dieu, de cette décision de le laisser en prison alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et la quatrième conclusion qui en découle, c'est 1 Timothée 2. Parce qu'à partir du moment où les autorités ont des décisions très difficiles à prendre, ce n'est pas évident de gouverner. Que le général de Gaulle avait dit, ce n'est pas facile à gouverner un peuple qui a plus de 300 sortes de fromage. Donc, l'individualisme à la française, quelque part. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je lis 1 Timothée 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes et pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et là, l'aboutissement de cela, la finalité, c'est: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand il y a la paix sociale, il est plus facile de faire connaître l'Évangile d'après ce texte. Alors, je vais prier. Seigneur, merci pour ce texte. Nous pourrions dire beaucoup de choses, peut-être nous pourrions encore en parler aujourd'hui, mais merci parce que ça nous rappelle que nous sommes appelés à être citoyens, de bons citoyens, et nous voulons prier pour nos autorités, nous voulons prier pour les autorités de notre arrondissement, nous voulons prier pour les autorités de la ville de Paris, nous voulons prier pour les autorités de la région. Nous voulons prier pour nos autorités sur le plan national, pour que nous puissions vivre en paix, tranquillement, sans avoir à faire le choix entre Dieu et les hommes. Merci Seigneur, parce qu'en général, nous n'avons pas actuellement en France à risquer grand-chose pour cela. Nous demandons que cette paix puisse continuer pour que l'Évangile puisse encore être annoncé, pour que les églises soient créées un peu partout, pour que le peuple puisse être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous prions pour les autorités, que tu leur donnes cette sagesse qui vient de toi, peut-être à leur insu, pour qu'ils soient vraiment, comme nous l'avons vu, comme des serviteurs, tes ministres pour le bien de la nation. Au nom de Jésus. Amen. Amen.